Chavez d'avoir soutenu Castro et Ahmadinejad. Nous qui avons soutenu jusqu'au bout Saddam Hussein, Kadhafi et Ben Ali, et qui continuons à soutenir Vladimir Poutine. Ce qui dérange le plus, ce n'est pas son soutien au dictateur, mais son soutien au peuple. Pierre du 49.
Bonjour à tous, Thierry Orléans. Je voulais profiter de cette matinée et après l'éditorial de ce matin pour rendre un hommage à Hugo Chavez par rapport à tout ce qu'il a entrepris dans son pays et dépeindre peut-être autre chose que ce qu'on a pu entendre à 7h30 sur France Inter en le présentant comme un ami des dictateurs plutôt fantasque. Est-ce que c'est vraiment un bilan à faire pour un politique après ses mandats? Alors effectivement, il avait Castro comme idole, bah oui, en quelque sorte, hein, mais peut-être encore même davantage Simon Bolivar. Et son bilan, même si économiquement il est moyen, malgré tout, il faut voir le progrès social. Il a été positif en termes de création de logements, il a diminué par deux le seuil de pauvreté du Venezuela, il a amélioré le système de santé. Il a mis en place un vaste programme d'alphabétisation et de redistribution des ressources du pays comme le pétrole. Le pétrole, il le livrait à prix d'amis à Cuba, victime toujours de cet embargo qui date de la guerre froide. Je pense que la guerre froide, elle est terminée, il serait peut-être temps de passer à autre chose. Et notamment que les pays européens essayent d'appuyer en ce sens pour faire sauter cet embargo.
Ce matin, un peu avant 8h, j'ai écouté tout d'abord France Inter, puis ensuite France Culture. J'en conclus que deux Hugo Chavez sont décédés hier. C'est pas possible, ils ne parlaient pas du même homme.
Bonjour à tous, je souhaiterais parler du poids des mots. Quand un homme comme Hugo Chavez est démocratiquement élu, certains de nos journalistes le nomment le dictateur, le populiste. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas issu des classes dominantes, parce qu'il ne sort pas de l'ENA, parce qu'il fait une politique au service des plus fragiles, et ça dérange dans nos sociétés qui ne bichonnent que les plus aisés. Je crois qu'il serait temps de respecter ceux qui veulent changer le monde. Salut Hugo, tu es parti trop tôt, et nous te respectons.
Le Venezuela n'est plus une pétromonarchie. Un petit vendeur des rues, devenu président de la République, a attribué le minimum vieillesse à tous les vendeurs de rue. Il a donné un visage au sans-visage, des droits au sans-droits. Le Venezuela est le pays le moins inégalitaire d'Amérique latine. 20 millions de personnes bénéficient des missions sociales. La pauvreté a reculé de 50% depuis 1998. Le nombre d'enseignants est passé de 65 000 à 350 000. Le continent latino-américain doit à ce petit vendeur des rues, devenu président, la plus grande intégration de son histoire. Ce petit vendeur des rues a eu le courage de dire aux États-Unis « Allez vous faire foutre ». Il a été la pointe de lance des changements en Amérique latine. Alors, populisme, dictature, c'est trop facile. Chavez a fait 15 élections depuis l'indépendance du Venezuela. Il en a perdu une, il a gagné toutes les autres. On gagne des élections quand on améliore la vie des gens. Le populisme, c'est ce que fait François Hollande. C'est faire des promesses et ne pas les tenir. Je suis triste parce que Chavez est parti, mais il a semé beaucoup de militants qui n'accepteront jamais que le Venezuela et le monde redeviennent une colonie des États-Unis.
Les condoléances des chefs d'État pour Chavez ne pleuvent pas. C'est sûr, quand on se sert de l'argent du pétrole pour le distribuer à son peuple, on est complètement à contre-courant. Comment, à France Inter, avez-vous pu nous faire entendre la parole d'un étudiant anti-chaviste alors que nous sommes sous le choc? L'auriez-vous fait pour un autre chef d'État néolibéral? Vous ne pouviez pas attendre quelques jours? De tout cœur avec le peuple vénézuélien. Marie-Paul de Villejuif.
Lorsque Chavez nationalise les grandes sociétés multinationales pour redonner du souffle à sa politique sociale, c'est mal. Lorsque l'Europe ravage les avantages sociaux des peuples pour renflouer les banques privées qui s'en sont mis plein les poches, c'est bien. Lorsque Chavez se fait élire démocratiquement par les petites gens de son pays, c'est un dictateur. Lorsque Sarkozy et Hollande unissent les votes des députés UMP et PS pour revenir sur le référendum de 2005, ce sont des démocrates. Lorsque Chavez va voir son ami Fidel Castro, c'est une réunion de despotes. lorsque les présidents français viennent ou reçoivent les dictateurs africains, c'est pour le bien de la France-Afrique. Ai-je bien appris ma leçon ?
Oui, très bien, jeune journaliste. Voilà ce qui se répète depuis combien maintenant 13 ans au sujet d'Hugo Chavez, au sujet du Venezuela. Vous avez à peu près tout dit, l'essentiel en tout cas, à travers ces messages sur le répondeur de la base J'y suis suite à la mort d'Hugo Chavez. Il y a une chose qui se passe en ce moment à Buenos Aires, en Argentine, c'est l'ouverture d'un très grand procès, le procès du plan Condor, de l'opération Condor dans les années 70. Un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, frappés par des dictatures diverses et variées, le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, le Paraguay, s'étaient mis ensemble, je parle de ces dictateurs, pour faire un grand plan pour détruire tous les opposants, que ce soit les leaders ou les différents personnalités de l'opposition. Toutes les indications, les soupçons, les dossiers auxquels on a pu accéder indiquent que très probablement, plus que probablement, les États-Unis, en tout cas M. Kissinger, étaient derrière ça, stay behind, derrière cet énorme plan. Le procès s'ouvre, va durer très longtemps en Amérique latine, à Buenos Aires, je le disais. Et c'est très intéressant, c'est très important, parce que je pense que ceux qui trouvent aujourd'hui que Chavez, c'est l'équivalent d'Ahmadinejad ou d'un dictateur, étaient sans doute ceux qui, à l'époque, niaient l'existence du plan Condor, où en étaient les complices. Souvent ignorant, je fais ce rapprochement. En 2004, avec Antoine Chao et Guy Vanctil, on a fait une suite de reportages, certains s'en souviennent peut-être, j'espère en tout cas, au Venezuela, à Caracas et ailleurs à travers le pays. Et de ces moments que nous avions vécu là, nous nous souvenons avec émotion de ce qu'était la mission, de ce qu'est toujours d'ailleurs la mission Robinson, d'alphabétisation. Les habitants du Venezuela, les Vénézuéliens, étaient à 10% analphabètes à cette époque, en 1999. Et grâce à cette opération, la mission Robinson, eh bien aujourd'hui, ce taux d'analphabétisation a baissé. C'était un moment émouvant, d'espoir et de volonté politique efficace et assez belle à cette époque. Et on sait bien que aujourd'hui, on va faire le bilan, vous pourrez vous documenter là-dessus si vous l'ignorez, de ce pays. En tout cas, on a voulu aujourd'hui, pour marquer cette occasion, et puis après tout aussi en hommage au Venezuela et aux habitants du Venezuela, revenir sur ce moment où des personnes d'un certain âge apprennent à écrire et à lire, apprendre, très très important pour l'émancipation humaine.
Bolívar el Quijote, précurseur de l'antiimpérialisme en América, ese es nuestro Bolívar, el auténtico Bolívar. Bienvenidos hermanos, bienvenidas hermanas.
C'est quand même bien de savoir lire.
Copie, c'est plus jamais nous ne serons des esclaves. Une république d'hommes libres.
L'éducation des enfants et des filles.
Plus jamais nous ne serons des esclaves.
C'était la leçon 17. Leçon 18.
Toutes les personnes ont le droit à pratiquer du sport et à pratiquer des loisirs.
D'accord. Donc ça, en fait, c'est un cahier
qui s'appelle « Maintenant, je peux lire ».« Ya puedo leer ».«
Maintenant, je peux lire, mais je découvre aussi mes droits, je découvre la Constitution, je découvre des grands principes universels. »
Nous avons une nouvelle Constitution, leçon 3.
Ah oui.
Après, la phrase à recopier avec sa petite main qui a été annotée, c'est « Le songe de Bolivar est devenu une réalité ».
Bolívar el humanista. La verdad. Igual que Martín, Bolívar el revolucionario.
Bolívar y Martí alertaron de la amenaza del imperio norteamericano. Trascendieron su tiempo.
Venezuela, on a procédé à une campagne, une énorme campagne d'alphabétisation en l'espace de 2 ans.
Approximativement 1 300 000 personnes.
Donc approximativement 1 300 000 personnes.
1 300 000 personnes. Là, ce sont des dames d'un certain âge. Est-ce que ça veut dire que c'est tous les âges qui ont été concernés?
En la tercera se ha visto el mayor auge de analfabetos.
Donc c'est dans le troisième âge qu'on a recensé le plus d'analphabétisme.
Alors il faut combien de temps pour apprendre à lire et à écrire avec cette méthode?
El método 1, 3 meses.
3 mois, la première phase.
Uh-huh. Y la continuación dura 2 años.
Et la deuxième phase dure 2 ans.
14 horas de clase.
14 heures par semaine, entre 2 heures et 2 heures et demie par jour.
Primera fase en Robinson 1, si dans la bibliothèque.
Et alors, au terme de cette formation, il y a un petit examen et on reçoit une bibliothèque.
Et un certificat.
R-O-E-I-N son Robinson, mission à los campamentos brigadistas incorporación, missionnaire Robinson.
Mi abuela me escribió una carta.
Ma grand-mère m'a écrit une lettre. Savoir, c'est pouvoir. Partout dans les campagnes, avec constance, en quelques semaines, tu écriras ton nom, grand-père, fille, femme, homme.
Elles sont très appliquées, les dames. Hein. La gomme, le crayon.
Et là, je vois, c'est des grand-mères qui font des multiplications. Alors, c'est 12 fois 2, 3 fois 1. Et là, c'est de la copie. Donc là, elle est en train de se faire donner des devoirs par la jeune professeure, des additions.
C'est très touchant, hein.
Primero aprendí a leer.
D'abord, j'ai appris
mais un poco
à lire.
Que no sabía.
J'en avais besoin parce que je ne savais pas.
Menos en escribir, estoy aprendiendo a escribir. Editado, por lo menos, ya estoy recibiendo un poquito
donc
más.
Maintenant, je suis en train d'apprendre à écrire et la dictée, ça commence à aller un peu mieux.
Vous êtes contente?
Sí, por eso es que estoy acá.
Oui, c'est pour ça que je suis là. Oui.
Estoy acá para tratar de aprender, porque como ya estoy viejita, pero estoy tratando de aprender un
donc,
poco más.
J'essaie d'apprendre parce que je suis un petit peu vieille, mais je veux en savoir un peu plus.
Las camionetas, por lo menos cuando las voy a agarrar, que no me cuestan tanto leer la camioneta.
Donc maintenant, quand je dois monter dans un petit bus, j'arrive à lire les directions et c'est plus facile.
Ah bah oui, c'est mieux. Mais comptez, vous saviez compter.
Contar sí, pero contar sumas grandes mucho todavía estoy tratando de aprender.
Mais pas des trop grosses additions, maintenant je suis en train d'apprendre à compter beaucoup plus. Quoi.
Estoy tratando de aprender contar porque tengo una quincalla y entonces...
Oui, parce que je suis marchand ambulant, j'ai une petite quincaillerie ambulante, donc savoir compter, ça va vraiment me faciliter la vie.
Ça, c'est précieux.
Sinon, on me roule, quoi, on me vole.
Mais vous n'aviez pas appris à lire et à écrire à l'école?
Non, non pude.
Non, j'ai pas pu.
Non, se murió mi mamá, se murió mi abuela.
Ma mère est morte, ma grand-mère est morte.
Cuando iba a empezar a trabajar para ponerme en un colegio, ellas se murieron.
Quand je devais entrer à l'école, ma mère est morte et après ma grand-mère, donc j'ai pas pu.
Puro trabajo, puro trabajo.
Je me suis mise à travailler.
On vous a offert des livres, on vous a donné une bibliothèque.
Ah si, como no, bien bonita.
Ah oui,
tengo
on me l'a donné, elle est bien belle, elle est à la maison.
Mi diploma.
Et j'ai mon diplôme aussi, mon
diplôme de primer. Tengo mi diploma. Sí.
Elle est fière, hein. Et qu'est-ce qu'il y a comme livre là dans la bibliothèque?
Comment que se llama estos de ay, ya le voy a decir Don Quijote.
Don Quichotte.
Y tiene también comment que se llama esto? Poema. Tiene poema.
Alors, c'est bien ce qui vous arrive.
Sí, sí, estamos cambiando otra vida porque el presidente nos apoyó en esto,
c'est por lo menos parce que le président nous a appuyé là-dedans.
Nos hizo como sugerir, estábamos como apagaditos.
On était comme un petit peu abattus, éteints.
Vous êtes réveillés.
Si, estamos agradecidos que él se haya preocupado por nosotros.
On est vraiment heureux qu'il se soit occupé de nous qui ne sommes rien, quoi, qui n'avions rien.
Clavelito colorado, que de la mata cayó clavelito. Todo lleno de rocío, como te cogiera yo, clavelito, 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 clavelito. que de la mata cayó clavelito, clavelito colorado, que de la mata cayó clavelito, todo lleno de rocío. Como te cogiera yo, clavelito.
Je suis triste. Le président Hugo Chavez est mort. Je sais qu'il n'était pas dans le cœur de beaucoup de gens, parce qu'il était solidaire, parce qu'il voulait construire un pays plus libre, plus indépendant, mais plus égalitaire pour tout le monde. Ça a déchaîné contre lui toutes les campagnes qu'on a entendues. Il a été traité de tous les noms. Mais le peuple vénézuélien ne s'est jamais trompé. Il a toujours été réélu. Et la démocratie, c'est ça. Je suis triste aussi parce que des pays comme Cuba et des petites îles des Caraïbes peut-être vont se retrouver dans une situation difficile. On verra ce qui nous apporte l'avenir. Mais triste, un grand hommage à Hugo Chavez et à sa solidarité.
Bonjour, le mercredi 6 mars à 19h, les auditeurs modestes et géniaux de Nîmes et sa région se retrouveront au bar le 34, 34 boulevard Gambetta, pour discutailler, ferrailler sur tous les sujets de ce monde. Venez nombreux, on vous y attend. Roland Dugard.
Bonjour, vous avez reçu un SMS sur votre téléphone fixe. Salut à tous, pour ceux qui voudront saluer une dernière fois Stéphane Hessel, rassemblement pour son inhumation, jeudi 7 mars à 12h30 au cimetière de Montparnasse, entrée au 3 boulevard Edgar Quinet, 75 014 au Paris, métro Raspail.
Le Café Repère d'Abbeville recherche animateur pour sa survie. Eh oui, ce mercredi 6 mars, Claire Luquier, fondatrice du Café Repère Abbevillois, animera son dernier repère. Le thème, et si vous veniez nous parler d'un livre qui vous a changé. Grâce à Claire, la gauche abbevilloise a respiré un peu à travers ses réunions mensuelles. Claire, nous tenons à te remercier pour ton investissement sans faille. Te souhaitons réussite dans tes nouveaux combats à venir et sache que tu vas nous manquer. Si vous voulez remercier Claire de vive voix, soyez nombreux à ce repère du 6 mars et que la lutte continue.
En 20 ans, les salaires ont baissé de 10%. La part versée au capital, elle, a augmenté de 150%. Je sais, c'est pas un scoop, ça n'a rien de nouveau, mais de temps en temps, une petite piqûre de rappel, c'est salutaire.
Autre titre ce soir avec cet accord qui aurait certainement fait la une de l'actualité si ces opérations militaires n'avaient pas eu lieu, accord sur l'emploi. Après plus de 3 mois de discussions, de négociations, les partenaires sociaux, et notamment le MEDEF et la CFDT se sont mis d'accord. Alors sécurité, flexibilité.
D'abord, c'est plus qu'un accord entre des syndicats et le MEDEF. C'est un accord entre le MEDEF, le gouvernement et quelques syndicats. Quand on voit que ce gouvernement socialiste va faire ce que la droite rêvait de faire, c'est ce que Sarkozy rêvait de faire, bah, c'est Hollande qui le fait.
Le moment est venu de mettre la France en mouvement.
François Hollande, 9 juillet 2013.
Et il n'y a pas de temps à perdre. Ma volonté, c'est de faire évoluer notre modèle social pour mieux le garantir.
C'est un projet de loi qui va en réalité accroître la précarité et la flexibilité. C'est un projet qui tourne le dos à ce que devrait être un engagement d'un gouvernement de gauche et qui fait la part belle au patronat.
On oppose toujours le vilain entrepreneur ou le vilain chef d'entreprise aux pauvres salariés, etc. La réalité, c'est que le vilain chef d'entreprise, il s'adapte aussi. Tout le monde souffre en période de crise. Donc si les salariés ne sont pas capables de comprendre qu'à un moment il faut faire des efforts, c'est un peu désespérant. Hein.
Construisons ensemble le nouveau modèle français.
Eh ben oui, salut, c'est Daniel Mermet. C'est là-bas que j'y suis, avec Anaël Verzo et Gaylor Van Vimerge. Construisons ensemble le nouveau modèle français.
Là, il y a un panneau avec l'Assemblée nationale qui est dessiné. C'est marqué dans une petite pancarte au-dessus, vendu au MEDEF.
Accord minoritaire, accord austéritaire, on n'en veut pas.
de cet accord-là.
Nous voilà dans la rue, dans le cortège de la manifestation parisienne contre l'accord compétitivité-emploi, ou autrement dit, accord de sécurisation de l'emploi, signé entre le MEDEF et trois centrales syndicales minoritaires. C'était le 11 janvier dernier, un accord sur l'emploi que viennent dénoncer ici la CGT, FO, Solidaires et la FSU, comme étant justement un accord qui précarise encore un peu plus les emplois, qui flexibilise le marché du travail français. Et donc, les centrales syndicales et les travailleurs sont descendus aujourd'hui dans la rue. Accord sur la régression de l'emploi, comme on peut lire sur certaines banderoles. Et là, il y a vraiment du monde. On est sur le boulevard Saint-Germain, à Saint-Germain-des-Prés, et on voit là tout au bout du cortège, des drapeaux jusqu'au bout, tout au bout, tout au bout, jusqu'à Saint-Michel, et c'est pareil dans l'autre sens, dans ce défilé parisien. Là, on a un manifestant. Qu'est-ce que c'est marqué sur ton chasuble, là? T'as un petit slogan.
Ils nous pissent dessus et ils nous disent qu'il pleut.
Voilà. Ils nous pissent dessus et ils nous disent, qu'il pleut.
Voilà ce que pensent les patrons de Peugeot et des ouvriers.
Merci beaucoup.
Voilà.
Bon, bah écoutez, on est désolé, mais il va falloir vous couper la jambe. Trois jours après, le chirurgien revient et dit « Ah, j'ai une très bonne nouvelle, on va pas vous couper toute la jambe, on va juste vous couper à partir de la du genou. » Hein ? Qu'est-ce qu'on dit ? Merci. Ça, c'est une stratégie, de la stratégie classique du licenciement. Hein. On va tous vous virer, les 5000, là, on va tous... Ah, puis quelques temps plus tard, on dit, bah, finalement, non, on va en virer que 4000. Alors, il y en a... Bah, on dit merci. Dans ces cas-là, on dit merci. Ça fait partie de ces stratégies de plus en plus sophistiquées, de plus en plus compliquées, de plus en plus épuisantes pour simplement détruire les acquis sociaux, les conquis sociaux, à travers la novlangue toujours renouvelée. On disait licenciement, pendant un moment, on disait, bon, ben voilà, c'est des licenciements. Après, on a changé, on dit plans sociaux pour licenciement. Et désormais, on dira sécurisation de l'emploi. Voilà, et sécurisation, s'il y a sécurisation, c'est bien la sécurisation des profits, un mot qui n'est absolument pas employé dans tout ça. Soyons honnêtes et lucides et clairvoyants, il n'y avait pas un monde fou. Hier, dans la manif, que ce soit à Paris ou à travers le pays, la mobilisation n'était pas extraordinaire, si extraordinaire que ça. Ardente, certainement, motivée, indéniablement, mais il faut dire que ce plan d'accord salarial est passé au deuxième plan tout au long de ces dernières semaines, derrière des sujets extrêmement importants comme le mariage pour tous, comme d'autres sujets de par Dieu, tout un très important, des sujets extrêmement importants qui sont venus au premier plan, si bien que ces sujets-là sont passés derrière. Alors hier, on entendait de ci, de là, faut encore la grève, encore des manifs, à quoi ça sert, etc. Ceux qui ou bien s'en foutent complètement, ou ignorent tout, ou s'opposent à des journées de grève comme celle d'hier et ces manifestations, ignorent le plus souvent, ou feignent d'ignorer, ou oublient qu'ils bénéficient d'un certain nombre encore malgré tout, de droits sociaux et de droits dans le travail, des droits qui ont été acquis et conquis grâce à des manifestations comme celle d'hier et à des grèves comme celle d'hier. Voilà pourquoi nous étions dans la manif, Anaël Verzo, Gaëlor Van Wimersch et l'équipe de là-bas, si j'y suis, CMI, pour comprendre et faire comprendre, comme on pourra, ce qui s'est passé hier, ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est un formidable bond en arrière supplémentaire qui s'ajoute à toute une série de bons en arrière. Ils nous pissent dessus et ils nous disent qu'il pleut. 1, 2, 3.
3 et 4.
Flexi-sécurité.
La flexi-sécurité.
Flexi-sécurité. C'est quoi cette flexi-sécurité?
Flexibilité pour l'entreprise et sécurisation des salariés.
Le moment est venu de mettre la France en mouvement.
2, 3 et 4.
Première affirmation, les salariés devront faire des efforts.
1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3 et 4.
Car désormais, une entreprise confrontée à une crise passagère pourra demander à ses employés de baisser leur salaire ou d'augmenter leur temps de travail.
Alors, en fait, c'est un système dans lequel il s'agit de rendre plus souple
1, 2, 3 et 4.
Le fonctionnement du marché du travail.
Baisser leur salaire ou d'augmenter leur temps de travail.
La flexibilité.
Texte important, donc, on l'a compris, et de l'aveu même du MEDEF, jamais un gouvernement n'avait autant réformé le marché du travail. La France se met donc, en quelque sorte, à l'heure de la flexi-sécurité dont on parle beaucoup depuis plusieurs années.
1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4.
Flexi-sécurité.
La flexi-sécurité.
1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4.
Et ce n'est pas tout. Les patrons pourront imposer à leurs salariés de travailler sur un autre site. Les licenciements économiques seront facilités.
Là, il y a une banderole, USRAF, Union syndicale des retraités CGT Air France, pour la défense et l'amélioration des retraites.
Oui, parce qu'on est solidaire avec le mouvement actuel, parce qu'on voit bien qu'on est en train d'aller vers une remise en cause de plus en plus importante du droit du travail, que ça va toucher tous les gens qui sont les salariés. Donc on est associé avec nos camarades salariés qui sont dans la manifestation aujourd'hui.
C'est rare hein, de voir les retraités qui défilent.
Eh oui, les retraités qui sont tout de même sensibles à ce qui se passe, parce qu'on a le même combat et contre les mêmes dangers pour nous, hein, salariés. Voilà, c'est pour ça qu'on est avec eux dans la rue.
Qu'est-ce que vous reprochez à ce projet de loi qui doit
être ce projet de loi,
demain?
C'est qu'il est en train de mettre à terme, avec les dirigeants qui vont venir, le droit du travail. Les accords seront faits au niveau des entreprises. Et on sait bien ce que ça donne si c'est fait au niveau des entreprises. Les patrons peuvent avoir des syndicats bidons et pouvoir appliquer plus facilement ce qu'ils veulent appliquer. Il faut garder le droit du travail sur un plan national. Regardez, si demain un salarié va se trouver dans une entreprise qui va prendre des décisions qui le concernent et avec lesquelles il ne sera pas d'accord, il ne pourra même plus avoir recours, si c'est dans le cadre de ce qui est décidé là, il ne pourra même plus avoir recours à se présenter devant les prud'hommes, par exemple. Alors ça, on ne peut pas l'admettre, ce n'est pas possible.
Et il y a des emplois menacés en ce moment à Air France.
Ah oui, ben oui, il y a 4 ou 5 000. Mais partout, parce qu'il y a la crise, mais par qui a été provoquée la crise, c'est la question qu'on pose, c'est pas par nous. Il y a aussi le patronat qui profite de l'occasion pour serrer un peu plus. Ah oui, c'est un moment rêvé, ça, ces moments-là pour le patronat. C'est rêvé parce que c'est l'occasion de pouvoir dire « mais moi je suis obligé de diminuer mes effectifs », même si ça ne correspond pas à un calcul juste ou à une appréciation juste. Donc on ne peut pas laisser ça à faire. Il faut toujours que dans la démocratie, il y ait des discussions, des oppositions, certes des accords passés, mais pas des accords au rabais comme celui-là. Non, pas du tout. Voilà mon point de vue.
Comment vous appelez, monsieur ?
Monsieur Carpentier.
C'est totalement un accord historique. En tout cas, il le sera quand il sera voté en l'état par le Parlement.
Laurence Parisot.
C'est-à-dire qu'il est tout à fait essentiel que le Sénat et l'Assemblée nationale respectent.
France Info, 15 janvier 2013.
À la lettre. Le texte qui a été adopté par les organisations syndicales signataires, nous-mêmes, la CGPME et l'UPA. C'est un accord historique parce que son contenu est profondément innovant. Parce qu'il couvre un champ très large de la vie du travail, de la vie sociale. Parce qu'il va transformer la gestion des ressources humaines. Parce qu'il va donner aux entreprises, aux petites entreprises comme aux grandes, de nouveaux outils pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir faire face à la conjoncture et même aux ruptures technologiques. C'est en ça qu'il est historique.
Bon, Gérard Filoche, on est avec vous. Vous êtes inspecteur du travail à la retraite.
Oui.
Maintenant. Et donc là, on est au rassemblement cet après-midi à Paris, place du Châtelet, contre cet accord qui va bientôt être transposé en loi, qui prévoit justement un aménagement
du Code du travail, c'est l'accord compétitivité-emploi. Qu'est-ce que prévoit cet accord? On dit que ça flexibilise le marché du travail, que ça attaque directement le Code du travail français.
Oui, il y a 27 articles et 54 reculs. Il n'y a pas un aspect positif. Regardez dans le détail, le diable est dans le détail. Moi, s'il y avait un aspect positif, je me serais enthousiasmé. Mais ce n'est pas le cas, on cherche. Quand on arrive, par exemple, à parler des CDD, on dit qu'ils vont être taxés. Bah écoutez, de 0,5% ou de 1% ou de 1,5%, ça dissuadera aucun employeur. Il n'y aura pas un précaire de moins avec ça. Alors on parle du temps partiel, il y aurait un plancher de 24 heures. Ce n'est pas un plancher, c'est une passoire. Il y a tellement de dérogations que pratiquement 90% des temps partiels échapperont au plancher. Alors après, il y aura des contrats à durée indéterminée, intermittent. C'est une brèche contre le CDI. Donc là, il n'y a pas un aspect positif.
Il y a aussi, on parle beaucoup des licenciements qui seraient facilités par cet accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, bah écoutez, c'est simple, ils sont facilités parce que l'employeur pourra décider de raccourcir les délais, il pourra décider de simplifier les procédures, et s'il n'a pas d'accord dans son entreprise, s'il ne peut pas, il ira voir le direct, pas l'inspection du travail. Le direct, c'est une espèce de sous-préfet qui maintenant chapeaute les services de contrôle et qui politiquement décidera ou pas de homologuer son plan en 21 jours. 21 jours. Parce que le 22e, ça s'appliquera. Si le direct n'a pas donné sa réponse, ça veut dire oui.
Donc là, vous dites facilité pour les licenciements.
J'ai jamais vu une chose pareille. Vous avez qu'à imaginer ce qu'il vient de faire avec les Fralib. Les Fralib, ils se sont battus pendant 884 jours. Et ils ont gagné, il y a quelques jours, l'annulation de toute la procédure de la part de leur employeur. Ils ne pourront plus le faire si cet accord passe.
C'est-à-dire que les recours en justice, comme l'ont fait les Fralib, par exemple, seront plus possibles.
C'est explicite dans le contenu de l'accord. C'est-à-dire que la procédure sera subordonnée au fond. On ne pourra plus utiliser des motifs de procédure pour dire que le licenciement ne doit pas avoir lieu. Vous n'avez plus de protection du tout. Et là, vous aurez la simplification des procédures et on ira directement accès, quand on est employeur, au direct, c'est-à-dire au patron sous-préfet, etc., pour essayer de négocier du temps pour aller plus vite mettre les gens dehors. Tandis qu'aujourd'hui, ils pouvaient résister. Petroplus, PSA, Renault, Mittal, Goodyear, Molex, les Pilpa, tous ceux-là se sont battus tous ces temps derniers grâce aux lois qui existaient depuis janvier 2002. Et puis là, c'est la mort de ce qu'ont fait les socialistes en janvier 2002.
Alors là, vous êtes en train de dire en fait qu'un plan de licenciement, comme c'est le cas dans plein d'usines et d'entreprises en France, ne pourra plus être contesté directement en justice. C'est bien ça, en fait. Ce qu'instaure cet accord, c'est ça.
C'est-à-dire que ce sont des mesures brutales pour vous faire France télécomiser, si je peux me permettre. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait à France Télécom pourra être utilisé dans le cadre des sociétés derrière des prétendus accords collectifs. Et ça sera un chantage, ça sera le revolver sur la tempe. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ce que je suis en train de vous proposer par accord collectif, je ferme, je licencie. Donc vous aurez même des salariés qui viendront dire « Mais je veux que tu signes parce que je vais perdre mon emploi ». Alors je connais l'argument toujours, c'est mieux d'avoir un mauvais emploi que pas d'emploi du tout. C'est vrai, c'est mieux d'avoir une seule main coupée que deux mains. Mais est-ce que c'est ça la société qu'on propose? Est-ce que c'est ça pour laquelle la gauche a été élue? Est-ce que c'est ça quand le patronat est si riche, quand il y a tant de dividendes et quand il y a tant de gains au niveau du CAC 40? Bien sûr que non. On nous fait prendre des vessies pour les lanternes. La France est riche, le CAC 40 est riche, les employeurs sont riches et ils peuvent parfaitement faire autrement. Mais ils profitent du chantage à la crise, du chantage à la dette pour nous faire avaler n'importe quoi.
On est avec les ouvriers de PSA Aulnay et PSA Poissy qui sont venus manifester. Interdiction des licenciements PSA Aulnay, le cortège des PSA qui est bien applaudi par les personnes qui sont au bord du trottoir. Acclamation.
Interdiction des licenciements, aucune visite ne doit fermer.
On est avec vous, Jean-Pierre Mercier, de PSA Aulnay. Et là, PSA montre l'exemple. Vous battez le pavé aujourd'hui contre cet accord entre le MEDEF et les syndicats sur qui s'appelle sécurisation de l'emploi. Alors pourquoi?
D'abord, c'est plus qu'un accord entre des syndicats et le MEDEF. C'est un accord entre le MEDEF, le gouvernement et quelques syndicats. Quand on voit que ce gouvernement socialiste va faire ce que la droite rêvait de faire, c'est-à-dire donner la liberté aux patrons de baisser les salaires, d'augmenter le temps de travail, d'imposer des mobilités géographiques, de limiter les moyens de contester des licenciements économiques, d'accélérer les procédures de licenciement et de fermeture d'usines. Ça, c'est ce que Sarkozy rêvait de faire. Bah, c'est Hollande qui le fait, sur demande du MEDEF, qui a une complicité évidente. Et on est en train de nous faire reculer des décennies en arrière. Et ils sont en train de faire exploser le code du travail. Aujourd'hui, le code du travail interdit à un patron de baisser des salaires. Il y a des procédures pour licencier, pour fermer les usines, qui mettent un certain temps. Tout ça, ça va sauter.
Par exemple, si cet accord était déjà en vigueur, si la loi était votée, qu'est-ce que ça aurait changé dans le cas, par exemple, de votre lutte, vous, chez les PSA?
Dans le cas de notre lutte, ça aurait accéléré la fermeture de l'usine. Derrière, ça pourrait nous empêcher de contester les licenciements économiques, le motif économique devant la justice. Il pourrait nous imposer des mobilités géographiques. On voit bien qu'il y a toute une stratégie. Le patronat et le gouvernement ont une feuille de route, ont un plan de bataille qui déroule méthodiquement pour nous écraser. À nous, travailleurs, monde du travail, de ne pas se laisser faire, de relever la tête et d'utiliser nos propres armes, c'est-à-dire les manifestations, les occupations d'usines et les grèves. Il n'y a que ça qui peut protéger nos conditions de vie face aux attaques.
Et alors là, il faut bien lutter contre le chômage, c'est-à-dire que cet accord compétitivité et cet accord pour la sécurisation de l'emploi, c'est comme ça que ça s'appelle, est vendu par François Hollande et par le gouvernement comme une mesure pour lutter contre le chômage, justement.
C'est impossible de défendre cet argument quand on entend Laurence Parisot demander à tous les députés socialistes de ne pas changer une virgule, à ce que cet accord soit transformé en loi. Ça veut dire qu'elle a, elle a son compte. Et entre parenthèses, quand nous, on demande l'interdiction des licenciements parce que ça serait la première mesure qui pourrait nous protéger du chômage, eh bien, on nous répond, mais comment c'est impossible parce qu'on peut pas, l'État, le gouvernement ne peut pas intervenir dans les affaires des entreprises privées.
Donc double discours.
Là, ils vont faire le cas, là. Ils vont nous faire la démonstration que c'est possible. D'un accord, ils vont le transformer en loi. Ça veut dire que la loi va s'appliquer dans toutes les entreprises privées du pays. Les choses sont claires. Il y a deux camps dans cette société. Il y a les patrons aidés par le gouvernement et puis il y a le monde du travail. Et pour que cette loi sur l'interdiction des licenciements, elle voit le jour, il faudra l'imposer par des grandes luttes massives du monde du travail. Il n'y a que ça qui peut nous sortir de là.
Je dis que cet accord est potentiellement historique. C'est-à-dire qu'il le sera réellement.
Laurence Parisot.
Si la majorité, et j'espère au-delà même de la majorité, c'est-à-dire avec l'opposition parlementaire.
RTL, 3 février 2013.
Ce texte est adopté en l'état. Si les députés
rompent cet équilibre.
Voilà, si, exactement ça. Si l'équilibre de l'accord, si les différents éléments étaient abîmés, entachés, amoindris, nous dirions que ce n'est plus l'accord que nous avons signé et nous mettrions ça suffisamment en cause pour que les investisseurs étrangers changent d'avis sur la France.
Voilà, c'était hier la manif à Paris. Sans être un très très grand économiste, c'est vrai que c'est cette histoire d'accord est présentée d'une façon compliquée. C'est vrai que c'est technique, c'est vrai que c'est juridique, c'est vrai que ça concerne le droit du travail. Et c'est sans doute pas pour rien que c'est présenté d'une manière aussi compliquée. En tout cas, on peut pas accuser les médias d'avoir fait trop de pédagogie pour expliquer les articles de cet accord. Mais ce qu'on comprend très vite, sans être très très malin, c'est qu'il s'agit quand même d'une régression des emplois et des conditions de travail que le gouvernement socialiste va gérer au mieux dans l'intérêt, évidemment, des salariés et des travailleurs. On n'en doute pas. Ce qui se passe simplement, c'est que la baisse du pouvoir d'achat salarial entraîne une réduction des cotisations sociales et de la consommation, ce qui entraîne une baisse de l'activité, ce qui entraîne la baisse des revenus, ce qui entraîne les licenciements. C'est la spirale fatale, infernale, dans laquelle nous sommes pris et dans laquelle ces mesures accélèrent encore plus cette forme de spirale et de déclin. Or, à plusieurs moments dans l'histoire, on a compris que la solution n'était pas là. fragiliser, faire peur, installer l'insécurité sociale, faire le choix du chômage et de la précarité, c'était pas forcément la meilleure solution, mais au contraire, en opérant une relance par des investissements publics, avec des droits sociaux et des salaires équitables, eh bien, on pouvait très bien relancer l'économie d'un pays. Ça a été ce qui s'est passé aux États-Unis à partir de 1932 avec Roosevelt, en gros. C'est ce qui s'est passé dans notre pays après la Seconde Guerre mondiale. On avait appelé ça les 30 Glorieuses. C'est pas du tout, je ne vous parle pas comme un gauchiste échevelé, ni comme un marxiste frénétique. Je vous parle un petit peu comme on parle chez Keynes, par exemple. Mais ça semble impensable, ça semble inabordable aujourd'hui, même si ce genre d'analyse, ce point de vue, n'a rien de révolutionnaire. On retourne à la manif hier, écho, analyse, indignation, mais pas seulement.
Alors là, on est place de l'Odéon, dans le rassemblement du Front de Gauche. Alors juste au-dessus de moi, il y a des ballons, des énormes ballons Front de Gauche, et il y a un arrêt de bus avec des pancartes collées sur cet arrêt de bus. Il y a par exemple une pancarte contre les requins de la finance, organisons-nous, abat l'austérité, flexi-sécurité égale maxi-précarité, Europe non au traité de l'austérité.
Bonjour.
Bonjour.
Clémentine Autain, pourquoi est-ce que vous opposez à ce projet de loi ?
C'est assez simple en fait. C'est un projet de loi qui va en réalité accroître la précarité et la flexibilité. Donc c'est un projet qui tourne le dos à ce que devrait être un engagement d'un gouvernement de gauche. C'est un accord qui a été signé par le MEDEF et la CFDT, donc c'est un accord minoritaire chez les salariés et qui fait la part belle au patronat. Et donc voilà, moi je suis vent debout parce que je pense que on est dans une période où avec plus de 4-5 millions de chômeurs réels, des CDD dans tous les sens, une pression sur les salaires considérable, des gens qui sont flippés par leur parcours, on devrait au contraire sécuriser véritablement les parcours professionnels, c'est-à-dire créer un filet de sécurité tout au long de la vie, faire en sorte que le CDI soit la norme. Or là, dans cet accord, on invente le CDI intermittent. On devrait donner plus de pouvoir aux salariés pour qu'ils puissent se rebeller contre les licenciements collectifs abusifs. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a un certain nombre de façons dans le texte de favoriser les licenciements collectifs. Donc, c'est exactement l'inverse de l'affichage, quoi. Et finalement, Sarkozy l'a rêvé et un gouvernement dit de gauche est en train de le réaliser. Donc, c'est normal d'être très, très en colère. Et la CGT et FO n'ont pas signé cet accord, ont raison de ne pas l'avoir signé.
Alors, parmi les propositions du Front de Gauche, il y a une proposition de loi contre les licenciements boursiers.
Le président de la République, quand il était candidat, s'en était vaguement pris au monde de la finance dans le meeting du Bourget. Ça avait fait grand bruit. C'était d'ailleurs à un moment donné où le Front de Gauche avait marqué les esprits et était monté dans les sondages. Et paf, on avait eu cette déclaration. Mais que par ailleurs, il a toujours dit qu'il voulait donner du sens à la rigueur. Donc il s'inscrivait dans les politiques d'austérité. Or, il y a la contradiction. Et pour l'instant, depuis que le gouvernement est en charge des affaires, ce qui paraît assez évident aujourd'hui, c'est qu'il a choisi l'austérité et pas l'affrontement avec le monde de la finance. Et donc, s'en prendre aux licenciements boursiers, ça voudrait dire qu'on aurait trouvé des solutions dans un certain nombre d'entreprises où il y a eu des grosses mobilisations. ArcelorMittal ne se serait pas terminé comme c'est en train de se terminer si le gouvernement avait décidé de redonner du pouvoir aux salariés et de taxer les entreprises qui font des profits. Donc il y a un paquet de boîtes qui aujourd'hui licencient parce qu'ils délocalisent, parce que le coût de la main-d'œuvre est moins cher ailleurs et qui laissent sur le carreau les salariés. Donc pour déminer le système, il faut en effet que ça coûte cher de mener ce type de délocalisation et il faut que les salariés puissent avoir du pouvoir dans leur entreprise pour décider des choix stratégiques et pour décider de la répartition de la richesse de l'entreprise. Voilà, taxons le capital, c'est possible, reprenons le pouvoir sur les banques et interdisons les licenciements boursiers. Ça paraît de bon sens en fait. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont favorables à ces idées-là mais qui se disent que c'est pas possible. Et moi je crois qu'une idée devient possible dès lors qu'elle est portée par une majorité de gens. Les congés payés, c'était délirant en 1935 et en 1936, ça rentre en application. Donc je crois que vraiment le progrès humain, il se fait à la faveur de majorités qui se mobilisent et qui décident que ça devient possible.
Flexion, extension, pas de négociation. Les bras le long du corps, signe-nous cet accord. Flexion, extension, pas de négociation. travaille ton grand écart avant qu'il soit trop tard. Fais-nous quelques étirements et fléchis bien les genoux. Soit tu gagnes moins d'argent, soit t'en gagnes plus du tout. Oublie les syndicats, les principes juridiques. Tu deviendras comme ça, travailleur élastique. Flexion, extension, pas de négociation. Les bras le long du corps, signe-nous cet accord. Flexion, extension, pas de négociation. Les bras le long du corps, on savait bien que tu serais d'accord.
On est avec vous, Marie-Noëlle Lindemann. Vous êtes vous sénatrice PS de Paris. Et vous êtes venue ici, alors que vous êtes PS, au rassemblement contre cet accord
de
sécurisation de l'emploi.
Je suis contre cet accord pour plusieurs raisons. Premièrement, cet accord n'a pas été signé par des organisations syndicales représentant la majorité des salariés. Ceux qui s'opposent représentent plus de salariés aux élections que ceux qui l'ont signé.
Donc, FO et CGT qui s'opposent représentent beaucoup plus les signataires qui représentent 40%.
C'est ça. Voilà. Donc, il y a plus de gens contre que de gens pour, et les signataires ne représentent pas la majorité des salariés. Donc, ce n'est pas une démocratie sociale comme on peut l'imaginer. Sur le fond, ce compromis est déséquilibré en faveur du MEDEF sur plusieurs sujets majeurs. Premièrement, on voit revenir par la petite porte les accords compétitivité-emploi qu'avait promis Sarkozy et que le gouvernement validerait à travers cet accord. Nous y sommes hostiles et nous demandons sa contestation. La deuxième chose, c'est la mobilité interne, où les salariés vont être contraints sans contrepartie.
Mobilité interne, c'est qu'on va demander à des salariés, par exemple,
De changer de région pour aller dans un autre lieu du groupe, sans contrepartie, sans aide, etc. Et sinon, licenciement sec. Et le troisièmement, c'est que les plans sociaux ne seront plus soumis au tribunal, mais à de l'agrément administratif, ce qui, en cas de litige, va mettre 18 à 2 ans de jugement du tribunal administratif, ce qui permettra évidemment de fermer les usines avant qu'on ait gagné le procès. Donc voilà, tout ça est très dangereux.
En fait, vous considérez cet accord comme une régression sociale, sur le plan du Code du travail notamment. Vous êtes une des seules frondeuses, on va dire, au PS.
Vous verrez qu'il y aura bien une vingtaine de députés qui ne vont pas voter cet accord en l'état, sauf si le gouvernement accepte de voter des amendements. Nous disons qu'on doit rééquilibrer le compromis, et en particulier pour éviter les menaces les plus fortes.
Donc vous appelez à la mobilisation, vous ?
Absolument, j'appelle à la mobilisation consciente, lucide, pour pouvoir rééquilibrer ce texte déséquilibré en faveur du MEDEF.
Changement de décor, nous voilà dans le très chic 8e arrondissement de Paris, entre deux magasins Gucci et Prada, et à deux pas du palais de l'Elysée, on va rencontrer une chef d'entreprise, Caroline Jung, qui dirige une entreprise qui s'appelle Expert Connect, qui s'occupe de recruter des cadres retraités pour les entreprises. Et on va aller discuter avec elle de cet accord signé entre le MEDEF et quelques centrales syndicales sur la sécurisation de l'emploi. On est avec vous, Caroline Jung. Vous êtes chef d'entreprise d'une entreprise qui s'appelle Expert Connect, et vous êtes aussi présidente de la commission sociale et de l'emploi à Croissance Plus, un groupe en fait qui réunit notamment des PME.
Absolument, Croissance Plus est une association d'entrepreneurs de croissance, et donc notre obsession, c'est la croissance de nos entreprises, la création d'emplois.
Alors, moi, si je viens vous voir aujourd'hui, c'est parce qu'on a du mal à comprendre un petit peu cet accord sur la sécurisation de l'emploi, accord compétitivité-emploi qui a été signé entre le MEDEF et des partenaires sociaux. Aidez-nous un petit peu à comprendre ce que ça implique, parce que le MEDEF s'en est félicité, le gouvernement s'en félicite aussi. Vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ?
Pour nous, l'accord ne va pas du tout assez loin. On est un peu déçus parce que c'est un accord qui offre un peu de flexibilité lorsque les entreprises vont mal. Maintenant, nous, notre obsession Croissance Plus, c'est la croissance et la création d'emplois, et on souhaite pouvoir embaucher de manière plus flexible. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, il n'ose pas embaucher parce qu'il sait qu'il ne peut pas licencier. Donc il a peur, et on est dans un climat, on voit bien, anxiogène par rapport à la crise. Il faut permettre aux entreprises une plus grande flexibilité, de manière à ce qu'elles puissent créer sereinement des emplois lorsqu'elles en ont besoin.
Et donc ça veut dire aussi pouvoir licencier plus facilement.
Absolument. Aujourd'hui, lorsqu'un entrepreneur veut licencier quelqu'un, en moyenne, ça lui coûte 40 000 euros, ça lui coûte 8 années et demie de profit.
Vous dites qu'il faut un petit peu moins de droits à octroyer aux salariés.
Et ça créera de l'emploi. C'est évident.
Et quand on voit le nombre de plans sociaux, par exemple, ou de chômeurs qu'il y a dans le pays, 10,6% de chômeurs, plus de 3,2 millions de chômeurs de catégorie A, ça fait à peu près 5 millions en tout, si on considère le nombre de chômeurs. Là, si on va vers une flexibilité encore plus grande, est-ce que ça risque pas justement d'aggraver le problème du chômage ?
Ça permettra de retrouver un job beaucoup plus facilement. Donc une plus grande flexibilité permettrait beaucoup plus d'embauches. On le voit très bien dans d'autres pays du monde. Donc c'est absolument essentiel d'insérer cette composante dans le droit du travail français. Et ça, ça aidera la France.
Quand vous dites, par exemple, mettre un peu plus de flexibilité, en disant ça, on fait du travail et des salariés la variable d'ajustement en période de crise.
Mais les entreprises s'ajustent aussi. Donc la main-d'œuvre doit s'ajuster aussi. Enfin, tout le monde subit la crise. Certes, c'est extrêmement triste. On perd des emplois, on crée des chômeurs, c'est terrible. On oppose toujours le vilain entrepreneur ou le vilain chef d'entreprise aux pauvres salariés, etc. La réalité, c'est que le vilain chef d'entreprise, il s'adapte aussi. Tout le monde souffre en période de crise. Donc si les salariés ne sont pas capables de comprendre qu'à un moment, il faut faire des efforts, c'est un peu désespérant, hein.
Vous dirigez une entreprise qui s'appelle Expert Connect.
Absolument.
Vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit ? Parce que j'ai cru comprendre que vous travaillez avec les retraités, c'est ça, pour remettre au travail des cadres retraités.
Absolument. Nous permettons aux entreprises d'avoir accès à des compétences de haut niveau et de faire appel à des experts retraités.
Alors, est-ce qu'un retraité est plus flexible et plus adaptable qu'un autre travailleur ?
Il est extrêmement flexible. Il souhaite travailler à temps partiel. Ce sont des gens qui sont hyper compétents et donc les entreprises ont tort de se priver.
On peut travailler jusqu'à quel âge ?
Alors, nous, on a fait travailler des gens jusqu'à l'âge de 86 ans.
Ah oui ?
Oui. Ah, bah, c'est une source pour l'économie et pour l'emploi au global qui est absolument fantastique.
Et les enfants ? Mais si on travaille qu'à 87 ans, pourquoi pas commencer à travailler à 7 ans ? Il y a de la compétence aussi, il y a des toutes petites mains, vous savez, pour faire des tapis, pour tisser les tapis, il faut des toutes petites mains. Voilà des idées qui peuvent être intéressantes. Merci en tout cas à Caroline Jung, qui elle est déçue aussi, tout le monde est déçu. On a trouvé, à part Laurence Parisot qui est inquiète, que des déçus. On est vraiment dans un climat très anxiogène. Dans la manif hier à Paris, il y avait, on s'en doute, Jean-Luc Mélenchon que nous avons rencontré.
Alors là, on retrouve Jean-Luc Mélenchon dans un café à côté du carrefour de l'Odéon.
C'est la première fois que je vois commencer une bataille sociale où c'est la gauche, bien sûr, qui est au pouvoir, qui essaye de faire passer une ligne politique, une orientation qui est à contenu 100% MEDEF, allez, on va dire, pour être charitable, 90% MEDEF, d'accord ? Et qui est essentiellement faite de mensonges. Par exemple, j'ai entendu le député Yann Gallu dire « Grâce à cet accord, les licenciements boursiers seront plus difficiles. » C'est une invention pure et simple. Pourtant, ça n'empêche pas de le dire à la radio.
Il y a eu une grande mobilisation au Portugal là, ce week-end. 1,5 million de Portugais dans la rue contre la Troïka, hein, contre l'austérité.
Oui, la BCE, la Banque Centrale Européenne, le FMI et l'Union Européenne. C'est le tyran européen de la politique que moi j'ai appelé austéritaire, pour cumuler le mot austérité et autoritaire. Ces gens n'ont reculé devant aucun moyen pour imposer leur politique. Alors ce que vous avez vu au Portugal, c'est une redite, hein, parce qu'il y a déjà eu une manifestation il y a 3 semaines, celle-ci est encore plus puissante. Vous avez eu la semaine dernière les marées citoyennes à Madrid et dans toute l'Espagne. La mobilisation sociale ne désarme pas en Grèce, en Italie ça va démarrer. Nous sommes dans la phase où une mobilisation populaire se construit face aux politiques austéritaires, alors qu'on est resté pendant des années et des années sans l'ombre du début, du commencement d'une trace de résistance de masse. Bon, c'est le début. Moi, vous savez, j'étends le regard. Je pense que cette révolution citoyenne, elle est commencée en Tunisie. Il y a eu aussi un impact sur le Maroc, comme il y en a eu en Égypte, mais essentiellement, c'est l'arc méditerranéen qui est touché. Si vous voulez bien regarder, vous apercevez que Grèce, Italie, France, Espagne, Portugal, c'est l'Europe du Sud. Celle-là même qui a été méprisée par le gouvernement conservateur allemand, c'est là que est en train de fermenter les prémices de la suite. Et moi, je suis très optimiste parce que je trouve que c'est un très haut et très beau niveau de mobilisation populaire qui se dessine.
Vous faites un lien donc du coup direct entre ce qui s'est passé ce week-end au Portugal, mais effectivement, on pourrait prendre d'autres exemples. Et la journée d'aujourd'hui ou...
Absolument. Ce que je trouve vraiment étrange, c'est de voir tous ces gens qui font des phrases sur l'Europe, blablabla, bla, bla, Et quand l'Europe réelle est là, il parle aussi beaucoup de l'Europe des peuples. L'Europe des peuples, c'est ça pour l'instant. C'est-à-dire des mobilisations de masse contre la politique de l'Union européenne. Et toutes les belles personnes, les importants, les puissants, ils sont, comment dire, dans une situation de déni de la réalité. Ils ne voient plus ni l'étendue des souffrances, qu'ils trouvent toujours supportables par les autres, ni l'étendue de la délégitimation du système. C'est le plus grave dans une société pour un dirigeant politique de voir le moment où les gens pensent que le système ne marche pas. Et c'est ça qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Et je suis fasciné de voir le caractère européen. Il ne faut pas, nous, en tout cas, moi je ne cesse de le recommander à nos camarades, il ne faut jamais qu'on perde de vue le tableau d'ensemble.
On partira en Espagne dans les jours prochains, en Andalousie, à Séville. Merci à tous. C'était Construisons ensemble le nouveau modèle français. Un reportage d'Anaël Verzo et Gaylor Van Wimmerge. Merci à Jean-Pierre Mercier, Clémentine Autain, Gérard Filoche, Jean-Luc Mélenchon, Marine Noël Lindemann, Caroline Jung, entre autres. Un hommage à Hugo Chavez. Tout à l'heure à 18h, au niveau du cours de la Reine à Paris, au débouché du pont Alexandre III. On a consacré, on le disait en commençant, une série de reportages sur le Venezuela avec Guy Anctil. Antoine Chao, en janvier 2005, que vous pouvez réécouter, retrouver sur le site là-bas.org, là-bas.org, janvier 2005. Toutes les informations sont sur le site de France Inter, à la rubrique Programme, émission là-bas si j'y suis, et sur le site là-bas.org où vous pouvez réécouter l'émission du jour. Vous pouvez aussi faire un tour sur la page Facebook de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Renan Mahé et Clément Atlan. Cette émission a été réalisée par Franck Adhérer et Chloé Sanchez, préparée avec Grégory Salomonovitch et Marion Dupas. Attend dès à présent vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis au 01 56 40 37 37.
Est-ce qu'on a écrit au brochon ?
Dans le cadre de la carte blanche à François Morel, France Inter et La Pépinière présentent François Morel et Olivier Saladin dans Bien des choses.
La chaleur qui fait au lavandou, c'est épouvantable.
Les Rouchons écrivent aux Brochons, mais quelquefois aussi, les Brochons écrivent aux Rouchons.
Avec Roger, la nuit, on est obligé de coucher avec des mousquetaires.
Cela donne une correspondance abondante, volumineuse, fourmillante, postée de partout.
Oh, puis merde, j'enverrai un texto.
Retrouvez Bien des choses jusqu'au 30 mars à La Pépinière, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Cap sur le Japon avec France Culture les 9 et 10 mars. Explorez l'archipel japonais de Tokyo à Kyoto, de Ozu à Murakami, des Haiku au manga, de Godzilla à Mizoguchi, sans oublier le contrepoint des enjeux politiques décryptés par Christine Ockrent. Week-end Japon, samedi 9 et dimanche 10 mars sur France Culture. France Culture, une radio du groupe Radio France.
Demain à 15h dans la base, j'y suis, on recevra Régis Debray qui parlera de l'OTAN, qui expliquera pourquoi la France doit rester dans l'OTAN. C'est le papier qu'il a donné pour le monde diplomatique de ce mois-ci. Et puis on parlera évidemment de son ami Stéphane Hessel. À demain donc, 15h pour la base, j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Gabriel Pereira. Salut.
C'est le quatrième soldat français tué au Mali depuis le début de l'opération Serval. Le brigadier chef Wilfried Pingo, 37 ans, a perdu la vie ce matin dans des combats à l'est du pays. Son unité a été prise à partie par un groupe de combattants islamistes. Dans le même temps, une dizaine de terroristes ont été neutralisés près de Gao, annonce l'état-major français. Prudence absolue si vous êtes dans les Pyrénées-Orientales. Le département vient de passer en vigilance rouge. Les risques de crues sont très importants selon Météo France. Ce matin, une automobiliste d'une quarantaine d'années a perdu la vie près de Perpignan, emporté par une rivière qui était sortie de son lit. Les départements voisins, l'Aude et l'Hérault, sont quant à eux en vigilance orange. La montagne a fait de nouvelles victimes aujourd'hui. Un professionnel et sa cliente emportés par une avalanche à Tignes en Savoie. Ils faisaient du ski hors piste. Leurs corps ont été retrouvés 300 mètres plus bas. Hier déjà, 4 personnes avaient perdu la vie dans les Hautes-Alpes, victimes elles aussi d'une avalanche. Le maintien des usines en échange d'efforts supplémentaires des salariés. L'accord de compétitivité chez Renault est validé après plusieurs mois de négociations. Force ouvrière a donné son aval aujourd'hui, emboîtant le pas à la CFE-CGC. L'accord devrait entrer en vigueur dans une semaine, le 13 mars, dans la foulée du prochain comité central d'entreprise. Le Venezuela est entré dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, son charismatique président Hugo Chavez est mort à l'âge de 58 ans, terrassé par le cancer. François Hollande a salué aujourd'hui un homme qui exprimait, je cite, une volonté indéniable de lutter pour la justice et le développement. Tout à l'heure, une minute de silence a été observée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Des funérailles nationales auront lieu après-demain au Venezuela. Des élections seront ensuite organisées dans un délai de 30 jours.
On aura tout vu, ils ont sculpté le film ensemble, l'artiste et son modèle, invité Bruno Dumont et Juliette Binoche, Camille Claudel, 1915.
Ma chère Henriette, c'est de bien loin que je vous écris. Depuis le jour où j'étais enlevée de chez moi par la fenêtre, j'ai bien essayé souvent de communiquer avec vous. Pas moyen, je suis surveillée la nuit comme le jour, comme une criminelle.
Le cinéma, c'est le samedi à 10h.
Inutile de vous raconter ce que j'ai souffert depuis que j'étais arrachée de mon atelier pour être enfermée dans ces horribles maisons.
Avec Christine Masson.
Je ne désespère pas de sortir un jour d'ici.
Et Laurent Delmas.
France Inter.
La voix est libre.
Il est 16h et presque 4 minutes sur Inter. C'est l'heure, bien sûr, de retrouver Frédéric Lodéon.
Merci Gabriel Pereira, on vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, une moisson de nouveautés aujourd'hui. Voici un disque de Cyprien Katsaris, par exemple. Katsaris est un grand pianiste franco-chypriote qui a débuté son instrument au Cameroun, où il a passé son enfance. Il a gagné de nombreux prix, dont le prix Tsifra. Il a gravé plein de disques et nous propose maintenant cet enregistrement Rareté pianistique volume 3. Et c'est une valse de Khatchatourian que vous allez entendre maintenant, tirée de Mascarade. C'était une musique de scène très célèbre à l'époque soviétique et elle a été un petit peu en Jolivé, amélioré si on veut. En tout cas, il y a plus de notes encore grâce à Lev Solin et Cyprien Katsaris lui-même. Aram Khatchatourian, valse de mascarade, musique de scène pour la pièce de Lermontov, transcription Lev Solin, qui a été d'ailleurs élève de Khatchatourian lui-même, encore arrangé par Cyprien Katsaris et interprété par lui-même, c'est un disque piano 21. Et voici maintenant un autre personnage tout à fait sympathique, qui s'appelle Joshua Bell, celui qui a joué en Amérique dans le métro avec son beau Stradivarius. Il a constaté que les adultes ne voyaient pas la différence. Il n'y a que les enfants qui ont prêté l'oreille, qui se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de pas ordinaire dans le jeu de cet instrumentiste. Ils essayaient de rester à écouter le violoniste, mais les parents les ont tirés par la main. Allez, il faut avancer, il faut avancer. Bon, alors c'est un violoniste très ouvert sur le monde, très passionné. Maintenant, il nous offre un disque à la tête de l'Académie de Sainte-Martine The Fields, fameux orchestre londonien, et il a décidé d'enregistrer les symphonies de Beethoven en jouant, c'est-à-dire qu'il est aussi ce qu'on appelle concertmaster à la tête de l'orchestre, il est à la place du violon solo, et puis il dirige, il discute pendant la répétition, il donne son, évidemment son information à lui, sa volonté, ses décisions partagées avec les musiciens, donc une autre façon de voir la musique, c'est pas la première fois, mais enfin, venant de Joshua Bell, c'est tout à fait passionnant. Et voici, par exemple, sa version de la 4e symphonie de Beethoven, qu'il adorait parce que sa maman écoutait souvent cette œuvre-là, sur disque, et la 7e aussi.